Cette
Oui.
conférence va maintenant être enregistrée.
Nous allons commencer le Daf Perhet plutôt. La Mishnah se trouve en bas de Pezaïn Amoudbet. Yodeyani Shiesh Nedarim Avaleni Yodeya Shiesh Mefirin. Un mari se prend en retard, s'y prend trop tard pour faire la hafara. La femme a fait un vœu, il a eu écho du vœu le jour même ou plus tard, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il fasse la hafara beyom shemoa isha. Le jour où le mari aura entendu, aura pris connaissance du vœu. Et là, il a entendu tel jour, mais prétend qu'il ne savait pas que yesh mefirin, qu'un mari est capable et à même d'effacer un vœu. Donc, il a raté sa chance parce qu'il ne savait pas. Alors, Yafer, il pourra quand même faire la hafara. Ce ne sera pas trop tard. Le jour où il apprend que la Torah lui a donné un pouvoir d'effacer, il peut effacer le vœu, mais il n'aura que la journée, bien sûr. Ça s'appelle que le Yom Shemo Aisha, c'est le jour où il y a tous les éléments qui sont portés à sa connaissance. Et l'existence d'un vœu, et le pouvoir qu'il a en tant que mari d'effacer ce vœu. Parce que c'est quoi l'idée? C'est qu'il a laissé passer la journée. Et sans faire de hafara, la Torah dit le vœu est adjugé. C'est une akama tacite. Mais tu ne savais pas qu'on pouvait intervenir. Alors, tu n'as rien fait, c'est normal. C'est pourquoi, dans ce cas, ce n'est pas trop tard. Par contre, Yodéa ni shiesh mefirin avaleni yodéa chez Zeneder. Là, cette fois-ci, il savait qu'il est question de hafara. Yesh. Il existe certains nédarim sujets à hafara. Donc, il sait qu'un mari peut effacer des vœux, mais il sait que ce n'est pas tous, comme on a déjà vu. Il nous une fèche ou dvarim chez dans le bénin, mais pas autre chose. Avaleni odéa chez un néder. Mais lui, il ne savait pas que ça en faisait partie. Il a eu connaissance du vœu de sa femme, mais comme il ne connaît pas les règles, il sait qu'il est question d'hafara, mais il n'est pas certain parce que ne savait pas que. Ce type de vœu appartient à Enoï Nefesh ou appartient à Dvarim chez Benon Lebena. C'est comme ça qu'il n'a pas fait la hafara. Peut-il se reprendre le jour où il a la confirmation? Deux jours après, on lui dit oui, ce vœu t'aurait pu effacer. Alors, Rabbi Meir Omer, lo yafer, vachachamim amrim yafer. Rabbi Meir dit non, c'est trop tard. Mais tu savais qu'il y a un vœu et tu savais qu'il est question de hafara. Ça s'appelle Yedia. Tu as pris connaissance. Tu as laissé passer l'échéance, c'est trop tard. Rachamim me dit non, il y a faire. Ça ne s'appelle pas une connaissance totale. C'est comme une connaissance partielle. Ce n'est pas assez. Tant qu'il n'était pas certain de pouvoir faire la fara, on comprend pourquoi il a traîné les pieds. Alors, ça n'est pas comme une fara tacite. Il a encore. La chance, lorsqu'il apprendra que ce vœu, il a un pouvoir de hafara dessus, il pourra encore se rattraper le jour où il aura cette connaissance qui sera enfin complétée. Le jour où il aura cet élément porté à sa connaissance, il aura tous les éléments. Il connaît le vœu d'avance. Et puis, il a appris aujourd'hui, disons deux jours après, que ce vœu précisément peut faire l'objet d'une hafara. Alors, il aura la journée en cours pour faire sa hafara. Ça, c'est Chachamim. Contre Rabbi Meir, j'ai traduit la Mishnah selon une lecture du Ran. Que la marloquette Rabbi Meir et Chachamim, c'est sur ultérieurement. Est-ce qu'encore y a faire, c'est pas trop tard ou c'est trop tard pour être méfaire? Il n'y avait que le jour même et le jour il a laissé passer? Il y aurait une autre lecture dans le Ran de cette Mishnah. Que la marloquette, ce serait le jour même. Le jour d'après, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être méfaire. Le jour même, est-ce que cette yédi'a suffit pour formuler à Afara ou non? Rabbi Meir pense que l'œil à faire. Ce n'est pas une yédi'a suffisante. Il faut être sûr de soi que tu es capable, que tu es habilité à effacer ce vœu. Sinon, tu ne peux pas formuler une Afara comme ça, Misafek. Donc, tu n'as pas une idée suffisante pour faire la fara. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu d'idée jusque-là et que demain, tu peux te rattraper quand tu as les éléments complémentaires qui viennent qui sont portés à ta connaissance, que tel type de vœu est sujet à Fara. Non, tu n'auras ni aujourd'hui ni demain. C'est ça l'œil à faire. Chachamim disent, il y a à faire aujourd'hui, mais pas demain. Demain, c'est raté. Tu as laissé passer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu avais une idée, même partielle, ça s'appelle, tu avais une idée et c'est réglé. Trop tard. Mais aujourd'hui, oui, il y a à faire. Parce que cette idée n'est que partielle, elle compte pas. Elle compte, pardon, ça s'appelle une idée. S'il a fait une afara dans le doute, ça marche. Donc la marloquette serait sur le premier jour, mais pas au-delà. Ça, c'est une deuxième lecture. On ne va pas travailler la Gemara selon cette lecture, parce que ça donne une différente interprétation du passage de la Gemara qui s'y rapporte. On retiendra la première explication que la marloquette Rabbi Meir Hachamim, c'est sur ultérieurement. Une fois que ce jour-là est passé, est-ce qu'il a encore une chance ou non? Tout de suite, la Gemara, elle met notre Mishnah en parallèle avec un sujet de galoute. Galoute, c'est si quelqu'un, il a causé la mort de manière involontaire, non intentionnelle, accidentelle. Alors, dans certains cas, il doit aller en galoute, c'est-à-dire dans les Aré Miklat, et y rester, et tout autour de la côte. Bref, en tout cas, le Riouf galoute, c'est lorsque il y a quand même un minimum de responsabilité qu'on peut lui imputer. Il est conscient qu'il y a quelqu'un dans les parages. T'as réalisé, il y a quelqu'un dans la forêt, comme c'est marqué dans le passouk. Le passouk qui dit, Bacher Yavo et Rehu Bayar, quelqu'un qui vient avec son ami dans la forêt, l'artov et tzim, pour faucher des bois, des arbres. Veni le chayado bagarzen, lichrotaetz, venachalabarzen, milaetz. Et en faisant le geste pour élancer la hache, alors c'est où le métal qui saute? Le métal de la hache, ou le métal de la hache, il fait sauter un copeau de bois, différentes traductions, etc. Et c'est comme ça qu'au matin, et très haut, ça a percuté l'ami, va mettre. Ou yanou salachat et harim le vachay. Lui doit se réfugier là-bas dans les villes de refuge pour être épargné du Goël Adam. Ainsi pourra vivre, être épargné des poursuites du Goël Adam. Mais en tout cas, on est bien conscient que l'histoire commence parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un par là. S'il n'avait aucune raison de s'imaginer que quelqu'un est là dans les parages, c'est un anus. Il n'y a pas de Riouf Galout. Maintenant, est-ce que cette Yédi a cette prise de conscience, il y a quelqu'un dans les parages. Donc peut-être qu'il aurait pu faire attention avant d'élancer la hache, etc. Même que tout le reste est accidentel. Alors il y a quand même, t'es pas déchargé entièrement, il y a des poursuites, t'es pas Khayamita par le Beddin, t'es Shogeg. C'est accidentel, d'accord, mais le Goël Adam peut te poursuivre. Donc, il y a un Riouf de Galout. Cette Yedi'a. Comme la Yédia du mari pour Nedarim, c'est des sujets que la Gemara va mettre en parallèle. Nous avons vu dans la Mishnah, selon la lecture qu'on a retenue, c'est-à-dire l'explication que la Machloket, Rabbi Meir et Chachamim, c'est sur le deuxième, le jour, au-delà du jour de la Shmiya. On a vu que une Shmiya partielle, avant même la marloquette, déjà on voit ça, une shmiya partielle, ça compte comme une shmiya. Qu'est-ce qu'on a dans la récha? La récha, c'est le cas où l'homme a pris conscience d'un vœu. Yodéani Shiesh Nedarim, je savais qu'il y avait un vœu. Lundi, j'ai entendu, j'ai appris qu'elle a fait un vœu. Mais ni Yodéani Shiesh Mefirin, je ne savais pas qu'il est possible de faire afara. Yedia partielle. Yedia partielle, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme toute la Yédia. Miksat Yédia, ce n'est pas que Kol Yédia. C'est ce qu'on retient dans la Mishnah. Ça, tout le monde est d'accord. Après, il y a la Machloket. Dans le cas où il savait un peu plus déjà, il savait qu'il y a des Nédarim et il savait qu'il est question qu'un mari puisse avoir un recours sur les Nédarim de sa femme. Il est question. Il ne savait pas si ce Néder en fait l'objet ou non. Il manque un petit élément. Pour Rabbi Meir, ça s'appelle Yedia, mais pas Miktsat Yedia, ça s'appelle Yedia totale. Ça s'appelle tu connais tout, quasiment tout. Tu aurais pu faire l'Afara par précaution, tu ne l'as pas faite. C'est Akamatasit. À la fin de la journée, c'est fini. L'oya faire. Au-delà, tu ne peux plus faire de l'Afara. Les Chachamim disent non, la Yedia, elle n'est pas entière. Il lui manquait encore un petit élément complémentaire. Et donc, tant que la Yedia n'est pas complète, Miktsat Yedia, ce n'est pas Kechol Yedia. C'est ça les termes techniques employés ici dans les Rishonim pour désigner ce niveau-là. Yedia partielle, ce n'est pas comme Yedia totale. Mais le din de la fara dépend de la yédia du mari, comme c'est écrit Veshama Isha, c'est-à-dire que c'est apporté à sa connaissance, c'est ça l'idée. Bien. Alors dans Galout aussi, il y a une notion de connaissance, parce que sans qu'il ait pris conscience qu'il y a quelqu'un dans les parages, il est à nous, il ne serait pas Hayab. Alors commence la Gemara maintenant au Romine où Beloréot, Prat, les Souma, dit Rabbi Yuda, Rabbi Meir Robert, les Rabot et Asouma. Voilà une braïta qui commente le pasouk. Beloréot, ça parle dans Parashat Massé, dans le sujet du Galout. Obekoleven, Asher, Yamut, Ba, Beloréot. Vayapel alav, Vayamot. En tout cas, il y a écrit Beloréot. L'incident survient sans avoir vu. Ça peut raisonner que la personne ne l'a pas vu, mais c'est quelqu'un de voyant. Ne l'a pas vu, mais voyant. Voyant n'ayant pas vu. Ou ça peut raisonner, ne l'a pas vu en tant que non-voyant. On peut le traduire ou comme ci ou comme ça. Ça veut dire, ça pourrait tantôt être pris comme un ribouille pour inclure l'aveugle. Si je traduis, ne le voyant pas, l'avdavka parce qu'il a manqué de le voir. Ne le voyant pas, ça veut dire un non-voyant. Carrément, même ça, c'est inclus. Ou bien je dis non, mais l'oréote, c'est là, il n'a pas vu, il n'a pas fait attention, mais c'est un homme voyant. Faut au moins qu'il soit voyant, parce que ça change tout, bien sûr. Quand tu es voyant, tu as appréhendé la présence d'un individu. Comme on a dit, ils sont rentrés à deux dans la forêt. Tu as bien vu où il était. Tu as continué à fendre le bois. Tu aurais pu prendre des précautions. L'accident survient. Galoute. Mais quand tu n'as pas vu. Alors, on est d'accord que la notion de voir, c'est la yédia, prendre conscience de la présence. Et c'est ça qui détermine la responsabilité pour éventuellement décider s'il est Khayav Galout ou non. Et on voit ici les Tanaïm qui discutent comment retenir la loi. Est-ce que l'aveugle va en Galout ou il ne va pas en Galout? Pour l'instant, nous dit Loran, on ne s'en tient pas trop au psoukim que chacun avance. Il y a ici Machloket dans la Braïta Rabbi Meir Rabbi Yuda et chacun brandit un passouk. Comment il faut traduire le passouk? Mais en réalité, à ce stade, on considère que fondamentalement, cette Machloket, elle est basée sur la svara de chacun. Chacun a un sentiment que la Torah, elle rend chayav l'aveugle ou elle le rend pas chayav. Et après, le passouk, c'est juste Asmarta. C'est une lecture du passouk en tant qu'Asmarta sur un jugement qu'on aura déjà nous-mêmes par Svara retenu. Ça donne que d'après Rabbi Yehuda, Misvara l'aveugle, il est exclu. Pourquoi il est exclu? Mais parce qu'un aveugle, il n'a qu'une Miktsat Yedia. Combien déjà il peut être conscient de la présence de quelqu'un? Ah, il sait, c'est vrai, les aveugles, ils savent capter. Capter la présence, ils savent. Sans regarder, ils savent. On pressent, on entend, on arrive à identifier ou à repérer, faire même un repérage. Avec les oreilles, ils ont l'oreille fine, ils arrivent. La plupart, ils arrivent à repérer avec moins de précision que par la vue de tout un chacun, c'est vrai. Mais ils arrivent quand même. Il y a dans ça ce qu'on a appelé Miktsat yediya, tu avais la connaissance d'un individu dans les alentours. Tu avais moyen de repérer. Pas aussi précisément. Appelle ça miktsat yediya. Eh bien, pour Abuda, ce n'est pas suffisant pour être responsable. Miktsat yediya, ce n'est pas kechol yediya. Et pour Rabbi Meir, les rabotes, on est marbé le souma. Ça veut dire que l'aveugle, il va en galoute alors qu'il n'a pas moyen d'avoir une yédia entière que partielle. Il a miktsat yédia, il ne peut pas localiser comme un GPS l'emplacement d'un individu. Il pressent qu'il y a quelqu'un dans les parages et à peu près il se trouve un peu plus par là à gauche sans savoir exactement où à gauche. Ça s'appelle Miktsat Yediya, et que Miktsat Yediya, les Rabbi Meir, ça s'appelle Yediya. Puisqu'on a inclus l'aveugle, Misvara. Je redis, le RAN explique qu'à ce stade, on considère que le écart de la divergence, Machloket Rabbi Meir Abuda, c'est sur la Svara que c'est basé. Chacun se détermine sur la question Misvara. Et après le Passouk, il le met de son côté. Il l'interprète de sa façon, à sa façon en tant que Asmarta. Du coup, la Gemara, elle voit ici, Ourminou, une contradiction, on objecte, on confronte Braïta et Mishnah, deux sujets éloignés mais qui se rapprochent finalement, parce que les deux sujets, comme pour les Nédarim et comme pour Galout, ça dépend de la Yédi'a, que ça a été, comme je l'ai précisé dans l'introduction, le mari. Ça a été porté à sa connaissance, le vœu. Et la possibilité peut-être d'effacer ou non, il savait pas. Miktsat yediya, qu'est-ce que ça vaut Miktsat yediya? Ben, on a dit que non, c'est pas assez. C'est la récha de la Mishnah. Miktsat yediya, tout le monde est d'accord qu'il y a à faire. Il n'y a rien eu jusque-là. Il savait juste qu'il y avait un vœu, mais il savait pas qu'on peut effacer. C'est pas assez. Peut-être qu'il aurait pu se renseigner. Non, non, c'est pas assez. Cette yediya partielle n'est pas suffisante pour dire que c'était aujourd'hui, le Yom Shomo, quand il aura le complément d'information de demain, que oui, Yesh Mefirin, il y a des vœux que tu peux effacer, alors seulement, ce sera le Yom Shomo, il pourra encore faire ça, Farah, demain, c'est pas trop tard. Donc, Miktsat Yediya, c'est pas que Chol Yediya, c'est ce qu'on a entendu dans la Recha de la Mishnah, après tout le monde. Et là, dans le sujet de Souma, on voit que c'est discuté, est-ce que Miktsat Yediya, c'est que Chol Yediya ou pas? Alors, pour Rabbi Yuda, on voit que non, ça colle avec la Mishnah. Très bien, on n'a pas de question sur Chachamim de la Mishnah, même si tu dis que Chachamim dans notre Mishnah opposé à Rabbi Meir, ce serait Rabbi Yehuda, le bar plouqueté habituel de Rabbi Meir. Même si Chachamim de la Mishnah, ce Rabbi Yehuda, il ne se contredit pas, ça va de pair dans les deux domaines. Il affirme que Miktsat Yediya, ce n'est pas que Chol Yediya. Ça compte pas pour la Torah comme une Yediya Shlema. Mais Rabbi Meir, il y a contradiction. Dans la Mishnah, nous, on voit que Miktsat Yediya, c'est pas ça. C'est pas que Chol Yediya. Donc, c'est pas encore aujourd'hui Yom Shomo. Il a du temps encore. Il y a à faire le lendemain, s'il veut. Et là, pour Galut, le Souma, il est inclus. Ça veut dire que, alors qu'il n'a une perception que moyenne, Miktsat Yediya, quand même, ça s'appelle Yedia. Il était conscient qu'il y avait un touriste par là qui se promenait, un promeneur, et que donc voilà, il a sa responsabilité engagée, même sur cet homicide involontaire. Il est Khayav Galut. Donc il y a contradiction dans Shittat Rabbi Meir. Voilà comment le RAN développe la question selon une des explications qu'on a retenues dans la Mishnah. Sur ça, il y a la réponse à Marava. Le RAN dit qu'on n'est pas goré cette petite phrase. Si j'ai bien compris, c'est la deuxième moitié. Quand on dit cette phrase, d'habitude, c'est pour dire chaque sujet à part, parce que chaque sujet se réfère à ses psukim dans la Torah. Mais là, on va voir surtout que on s'applique à décrypter les psukim du côté de Souma en Galout. Alors plutôt, je crois que ce que le RAN veut dire, c'est qu'on est goré Sacha ici pour ce qui est de Souma. Il y a Nadikra, c'est spécial. Il y a une indication dans le Passouk. Non pas comme tu as cru que Rabbi Meir Abiyuda se sont déterminés Misvara à la base, et après ils ont façonné la lecture du passouk sous forme de la smarta. Non, c'est le contraire. Ça part du passouk, chacun il a sa lecture du passouk, et c'est pas par Svara qu'ils établissent quoi que ce soit. Alors comment on va développer maintenant la machloket? Il faut la reprendre et on va la fonder. Rabbi Yehuda Savar Gaber Rotzeh Aktiv. Rabbi Yehuda pense que pour le meurtrier, c'est écrit dans le passouk Vacher Yavod Rehu Bayar. Cette mention de la Torah dans Parashat Kitetsé. Lorsque il vient avec dans la, qui c'est qui vient? Ça peut être n'importe qui. Un individu qui vient avec celui qui fauche le bois. Mais cet individu, ça peut être n'importe qui, Kol de Barmi Alayar, toute personne capable de rentrer dans la forêt est entendue ici. Ça sous-entend n'importe qui, même un aveugle, Soumanamibi, Barmi Alayarou. L'aveugle aussi, il est apte à rentrer dans la forêt. Il est question de n'importe quel individu, y compris un aveugle. Dans ce terme, il n'y a pas de mi-août pour exclure l'aveugle, bien au contraire. Il y a ici une résonance dans le passage. Il y a deux passages de Galout. Il y a dans Parashat Maaseh, mais il y a ici dans Kitetsé. Donc dans ce passage, il y a une résonance que la personne victime pouvait être, pardon, la personne qui a causé l'incident pouvait être n'importe qui. Monsieur n'importe qui. Quelqu'un qui peut rentrer dans une forêt, ça peut être n'importe qui. Donc même un aveugle. Maintenant, on est d'accord que Beloréot, c'est une mention qui est là pour le digne de l'aveugle. Mais comment tu tiens cette expression dans le sens du ribouille ou du mioute? C'est pour inclure l'aveugle ou l'exclure? Alors là, tu te dis comme ça. Si de Beloréot, ça se traduit quelqu'un de non-voyant, pas juste occasionnellement, il n'a pas vu. Mais quelqu'un qui ne voit pas, si c'est pour dire même l'aveugle, donc tu veux inclure l'aveugle par cette mention, mais il est déjà inclus par l'autre mention. Mais que, alors, Miyar Nafkale, ça s'apprend du passouk d'avant. On a dit un visiteur qui rentre dans la forêt, ça peut être celui qui fend le bois, ça peut être n'importe qui, celui, ils sont venus à deux dans la forêt. Venir dans la forêt, c'est n'importe qui, même un aveugle. Donc on n'a pas besoin de l'oréote pour inclure l'aveugle. Il est déjà inclus d'emblée. Forcément que l'oréote est venu pour spécifier le contraire, que l'aveugle est exclu. Voilà la conclusion de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda il affirme que l'aveugle il est exclu? Parce que d'emblée on a un indice dans la paracha que l'aveugle n'a aucune raison d'être exclu. Toute personne qui vit dans la forêt, ça peut être n'importe qui, y compris un aveugle. Maintenant que j'ai Beloréot, si c'est pour me redire la même chose, c'est superflu. Forcément, c'est pour m'apprendre le contraire que non. Beloréot, c'est pour dire le non-voyant. Pas juste il n'a pas eu l'occasion de voir, il n'a pas fait attention. Non, Beloréot veut dire même le non-voyant. Ça, c'est la conclusion de Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi Meir Savar active, Bivlidat, il a écrit Bivlidat. Bivlidat, c'est le pasouk. Voilà la loi du Rotzéar qui doit fuir là-bas dans les Arémiklat pour vivre. Eh bien, c'est celui qui a frappé son prochain, Bivlidat. Et dans ça, ça s'entend, qui est celui qui frappe Bivlidat? Ça peut être n'importe qui. N'importe qui, même un aveugle. Ça s'entend comme ça, pourquoi pas? Kol debar mida. Pardon. Kol debar mida, vesuma lav bar mida. Ou au contraire, excusez-moi. Ça s'entend déjà que l'aveugle. Il est exclu d'emblée. Pourquoi il est exclu d'emblée, dit le Rambam? Lui, il n'est pas apte, comme a dit l'Agmara, Souma Lavar Midahu, il n'est pas apte à avoir la connaissance exacte, la localisation du visiteur. Donc, Bivlida, ça s'entend qu'il est capable, mais il n'a pas fait attention. Mais il était capable de discerner où est là le visiteur. Mais un aveugle n'est pas capable de discerner, donc ce n'est pas inclus. Donc l'aveugle, il est exclu d'emblée. Qu'est-ce que j'entends maintenant dans l'autre pasouk? Beliréot. Veillez à Marthe Beliréot pour les soumains. Si tu traduis Beliréot au sens que il n'a pas vu occasionnellement, mais il aurait pu voir, c'est quelqu'un de voyant qui n'a pas vu. Si tu traduis comme ça et ça va donc exclure l'aveugle, mais il est déjà exclu d'emblée par l'autre mention de Bivlidat. Qu'est-ce que je viens d'une deuxième mention pour encore une fois l'exclure? Alors on applique au contraire un principe qui s'appelle en miout achar miout et la lerabot. Il a exclu par deux miout, c'est finalement pour l'inclure. Voilà la conclusion que pour Rabbi Meir, c'est comme ça qu'il en est venu à sa conclusion, qu'on a inclus l'aveugle, non pas Misvara une fois de plus, mais parce que la Torah nous l'a indiqué, parce qu'il y a un deuxième miout, mais d'emblée et de base, on appelle ça que Miktsat Yedia pour Rabbi Meir. Lav Yedia, c'est pas Ketrol Yedia. Ou dans quel domaine? Ben, comme dans Nedarim, ainsi dans Galout. Et on a travaillé avec ça comme base pour décrypter le Beloréot. Comme on a dit, c'est parce que la connaissance et la perception de l'aveugle n'est pas entière. Ça ne s'appelle pas une Yedia. Alors, il est exclu d'emblée. Donc, quand après, il y a renouvelé Beloréot pour encore une fois exclure l'aveugle, alors deux fois exclure, c'est qu'il faut l'inclure. Donc, c'est parce que la Torah nous l'a indiqué qu'il inclut. Mais sinon, de base, on aurait dit que non. Parce que Miksat Yedia, Lav Kechol Yedia, ce n'est pas comme une Yedia parfaite, entière. Et donc, ça va de pair, les deux sujets. La finalité là-bas n'est pas la même, parce qu'il y a indication dans la Torah. Mais la base, Kin Svara, qu'on a d'emblée au départ, c'est la même. C'est que Miksat Yedia, ce n'est pas Kechol Yedia. Donc, il n'y a plus de contradiction et c'est réglé. Nouvelle Mishnah. Hamadir ana mechatano veu rotse la tête levito maot. Maintenant, on n'est plus dans le sujet de Hafara. Pour une sugya, on fait abstraction. Il y a quelqu'un qui a fait un vœu à l'encontre de son gendre, qui ne puisse pas profiter. Donc, il ne peut plus donner un cadeau ou de l'argent à son gendre. Ce n'est plus possible. Mais il veut pour autant donner à sa fille, qui est mariée à son gendre. Comment peut-il faire pour éviter que ça s'appelle donner au gendre? Parce qu'on se rappelle qu'il y a un dîne, que les nirsemelug d'une femme reviennent partiellement au mari. Le gouf, c'est à la femme, et les perrotes, l'usufruit, au mari. Si une femme reçoit un cadeau d'argent pendant la période du mariage, il faut acheter avec cet argent un champ. Le gouf du champ appartient à la femme, et l'usufruit, l'exploitation, c'est le mari. Donc, si le père il donne de l'argent à sa fille, le gouffre, le capital appartient à sa fille, mais il y a une part qu'on appelle perot qui revient au mari. Il a un kinyan perot sur ce capital. Du coup, il est né de son beau-père. Or, il y a un éder. Comment faire pour contourner le problème? Le Rambam nous dit, on ne parle pas ici de maisonnot. On remarque qu'on parle d'argent. Ce serait maisonnote, ce serait beaucoup plus simple. Parce que s'il donne les maisonnottes à sa fille, les maisonnottes, c'est pour la fille elle-même, ça ne va pas au mari, rien du tout. Donc, il n'y aurait pas un problème qu'il ait méhané le mari. Même si ça fait économiser le mari, qui normalement, ça lui incombe de nourrir sa femme, c'est une anna indirecte. C'est un ment. Ça ne s'appelle pas lui donner. Anna de Vimela. Donc, on est ici avec de l'argent. Et l'argent, c'est un problème. Il faut savoir contourner le problème. C'est ce que la Mishnah va nous donner tout de suite, la solution. Alors, dans le texte, Amadir Anamechatano, celui qui fait un vœu pour interdire tout Anaa, son gendre. Son gendre ne veut plus profiter du beau-père. Veurotse la tête, le bito maot, veut donner à sa fille de l'argent. Omer là, il va lui dire, Ari Amaot, Aïlou, Netoun, il l'a bématana. Voici cet argent qui t'est donné cadeau. Ou Bilvan, Shaloye le balai reshut ben. Premièrement, il doit dire, je te le donne à condition que le mari n'ait pas de reshut, de propriété aucune. Il ne partage rien dans ce capital. Il n'a même pas les perrottes, rien. Il n'en récupère rien. C'est que toi et que pour toi. Et la mashéat noset venotenet befir. Il y a dans cette donation que quoi? Que pour toi et même toi. C'est que pour ce que tu mets en bouche. Ça veut dire que tu achètes avec la nourriture et tu te nourris avec. L'idée, c'est que même à sa fille, il ne l'a pas accordée, attribuée comme une vraie donation. Cette donation, elle est en stand-by. Ça appartient encore au père. Et il met l'argent dans la main de sa fille. Mais ça appartient encore au père. Parce que s'il cède l'argent à la fille, ça passe aussi chez le mari, au moins pour les perrottes. Et les nénés. Il faut éviter ça. Comment faire pour éviter ça? C'est comme si le père ne lâche pas prise. L'argent, il est à moi. Je te le donne à toi, cadeau, que ton mari n'ait aucune part. Mais ce n'est pas assez d'avoir dit ça, parce que cette phrase n'a pas tellement de force, comme on va voir. Mais je rajoute que même pour toi, tu t'appropries l'argent que pour dépenser dans la nourriture. Quand tu prends la nourriture, tu mets en bouche, c'est là où ça devient à toi. Là, le mari n'est rien connu. La nourriture, mais aux notes, c'est pour la femme. Mais si tu connais l'argent avant, ce serait tout de suite. Il y a un détournement, ça se détourne aussi vers le mari par rapport au perrot. Voilà le remède. Est-ce que ça peut marcher avec de l'habillement? Au lieu d'acheter de la nourriture, elle achète des habits. Certains disent oui, certains disent non. Comme ça, le RAN y ramène deux façons de comprendre le dîme de la Mishnah. Est-ce que le tout, c'est que l'argent appartient au père jusqu'au moment où elle le dépense dans des effets personnels. Mais maintenant que l'argent est dépensé dans des effets personnels, il n'y a plus de préemption du mari. Ça appartient à elle direct, totale. Ou bien uniquement si c'est pour Maisonnotte, c'est spécial. Mais sinon, c'est le dîme de Nirsemlou, que ce soit en objet de consommation toutes sortes, habits ou autres. Ou que ce soit en argent liquide, c'est le même dîme. Elle est connaît, le mari, il a un perro dedans. Donc voilà, ça c'est un détail que le RAN soumet, Machloket Rishonim. Amarav. Rav nous dit, Loshanu Ela de Amarla, Mashiat Noset Venotenet, Befir. Nous avons enseigné ici dans cette Mishnah qu'il y a un remède pour éviter le problème du Issourana pour le gendre, c'est que s'il a dit les deux formules, Machat nos internet, Béfir, cet argent n'est là que pour t'acheter et consommer. Ça veut dire tu dépenses pour quelque chose de personnel, que ce soit nourriture ou habits d'après d'autres avis, mais en tout cas, c'est que à ce moment que je cède l'argent. Mais avant que tu le dépenses, il est encore à moi. Il est en dépôt chez toi. C'est comme si je paye pour toi des achats. Alors là, il n'y a pas préemption du mari. Mais si je te le dédie déjà maintenant, tu as reçu un cadeau, un capital. Le capital t'appartient, mais les perrottes au mari. Et même si j'ai dit le tnaï almenat, que le mari n'ait pas de part dedans, c'est pas assez. Avala mama shetir tiasi. S'il a dit, fais ce que tu veux avec cet argent, kana yatonba, le mari les connaît. C'est-à-dire, cette phrase n'a pas plus d'effet que Almena Chen et Baaler Reshut Bo. Parce que comme on l'a vu dans la Mishnah, Almena Chen et Baaler Reshut Bo, ce n'est pas suffisant. Il y a encore une deuxième petite phrase qui se rajoute, que même toi, quand tu vas avoir l'argent, il n'est pas à toi, Il en dépend jusqu'au jour où tu le dépenses. Alors dire simplement le ménage et les réchauds, ça ne marche pas, on verra pourquoi. Eh bien, la phrase de faisant ce que tu veux avec, non plus, ça ne marche pas. C'est pas mieux? Faisant ce que tu veux avec, ça veut dire je te le donne pour que toi, tu dépenses, tu fais ce que tu veux avec. C'est toi qui dépenses. Ça veut dire que ce ne soit pas pour le mari? Non, c'est pas, ça ne marche pas. L'un ou l'autre ne marche pas. Moi, l'homère a fait l'Omar, Machetirti assi, l'okanayaton. Je m'en ai dit, même s'il a dit Machetirti assi, l'okanayaton, bah, le mari n'a pas de préemption et rien connaît. Et c'est bon, c'est lui une solution. Le Rhin nous rassure, attention, il ne faut pas se méprendre. Shmuel n'est pas relègue sur la traduction de notre Mishnah. De notre Mishnah, on l'a bien vu qu'il y a qu'une. Il y a exactement ce que Rhin a dit. Il faut deux éléments. Le Tnaï al-Mena, Tcheneba, Reshout, plus que même toi, c'est que quand tu l'auras dépensé, que ça devient toi, mais avant, c'est mon argent, il est en dépôt chez toi. Sans la deuxième phrase, ça ne marche pas. Donc, sur la Mishnah, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas de discussion. Quelle est la marque loquette Rav Shmuel? C'est sur le din. Parce que ce que Rav a souligné par rapport à la Mishnah, c'est la chita de Rabbi Meir, comme on va voir. Mais il y a des Rachamim opposés. Et Shmuel s'aligne avec Rachamim. Ça donne qu'il ne suit pas la Mishnah. Et en référence à des Rachamim, on peut se contenter de la petite formule Almena Tchene Bale Reshout. Et ça suffit. Ou bien, l'équivalence, il lui dit. Machetirti, ah si, fais ce que tu veux de cet argent. Ça veut dire quoi, fais-en ce que tu veux? Ça veut dire il est à toi, pour toi, entièrement. Tu peux le claquer en fumée si tu veux. En cigarette, ça part en fumée, il n'y a plus rien pour le mari. Il n'y aura pas forcément de perote, parce que si on doit s'appliquer, on doit appliquer le principe de venir semer lourd, ça veut dire tu fais pas ce que tu veux avec. Tu achètes un champ et le mari exploite. Ou t'achètes une maison et le mari exploite. Parce que quand on dit fais-en ce que tu veux, ça veut dire le contraire, justement. Donc ça veut dire que le mari, on le zappe. Mais est-ce qu'il a la force de dire ça, de contourner le mari? L'une ou l'autre des deux phrases, c'est la même chose. Ce que tu veux, tu fais. Ou bien le ménage que le mari n'est rien, c'est comme synonyme. Est-ce qu'il a la force? Pour Chachamim, oui. Pour Rabbi Meir, non. Notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Donc, notre Mishnah, il n'y a pas de marloquette, comment on la traduit? Clairement, elle a bien dit qu'il faut les deux phrases. Mais Chachamim, il pense que non, ça suffit d'avoir. Ou le Tnaï al-Menat Chenebale Reshout, ou bien faisant ce que tu veux librement, sans restriction aucune, dépense ça. C'est bon d'après Chachamim. Et Shmuel, comme il est possèque, et Chachamim, alors il dit, c'est ça que je tiens. Donc, la marloquette, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir en pratique, c'est tout. Mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Alors, retrouvons un peu tout ça, les chitotes qu'on a annoncées. On va retrouver ça un peu mieux dans la suite. Amarav, je reprends. Le din qu'on arrive à contourner le mari, c'est que si on a dit aussi cette petite phrase complémentaire, que même toi, tu n'as pas acquis l'argent que lorsque tu l'auras dépensé. Mais il est en dépôt chez toi pour l'instant. Avalamar, Machetirtia, si. Mais s'il a dit. Je te le donne à condition que ton mari n'ait rien à faire, il n'ait aucune part dedans. Et dépense-le comme tu veux à ta guise, sans aucune contrainte. Fais pas cas du mari, ça sert à rien. Kanaya tonba, le mari, il a une part dedans. Il aura sa part des perrottes. Et donc, ce ne sera pas une solution. Mais Rav, il dit ça à la chalemassé. Ce n'est pas juste qu'il nous dit, c'est la Mishnah. La Mishnah, on a vu que c'est ça qui est écrit. Mais il dit que voilà, c'est ce qui est, il ressort d'une Stam Mishnah, c'est ça qu'on retiendra. Shmuel dit non, je suis d'accord que c'est ce qu'il a écrit, mais ce n'est pas ce qu'on retient. Shmuel Amar, Afilou Amar, Machetirtiasi, Lokanayaton, le mari n'est pas connu. Rabizera. Et Rabizera, il objecte. Keman Azla comme qui ça va, cette position de Rav? C'est comme Rabbi Meir, Damar Yadisha qui a de mal. Yadisha ke yad bala. D'où ça vient? Où c'est écrit? La main de la femme, c'est-à-dire le pouvoir d'acquisition, c'est ça qu'on désigne par yad. Avoir un yad, c'est un pouvoir d'acquisition. Le pouvoir d'acquisition de la femme, c'est comme le mari. Ça veut dire que quand elle les connaît, c'est acquis par le mari, direct. C'est comme si sa main, c'est le prolongement de la main du mari. Où c'est écrit ça? D'où ça vient? Rabbi Meir, il a dit ça. Tous les Rishonim disent, Rabbi Meir, il a dit quelque chose de similaire à propos de Eved. On trouve ça dans Maseret Kedushin. Le Eved Kenani, il trouve une Metzia, il la ramasse, elle est acquise au maître. Il n'a pas son compte en banque. Mashe Kana Eved Kana Rabo. Tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, si je veux faire un cadeau, Eved Kenani, qui lui soit dédié à lui, sans que ça remonte au maître. Par exemple, je veux qu'il se rachète, mais pour se racheter, il faut de l'argent. Alors je lui donne l'argent, elle ménage qu'elle est rabot. Réchoute, beau. Que le maître n'ait pas préemption sur cet argent. Machloket. Rabbi Meir dit, non, il y a des vêtements qui a de rabot. Ça ne marche pas. Tu le mets dans sa main, mais sa main, c'est la main du maître. C'est aussi toi qui es au maître. Il n'y a pas deux étapes. Lui les connaît, après ça passe de lui au maître. Non, si c'était comme ça, peut-être tu peux intercepter et mettre tes conditions. Je veux que ça s'arrête là et que ça ne remonte pas au maître. Bon, pour Rabbi Meir, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est direct. Sa main, c'est comme le prolongement de la main du maître. Il ramasse une aveda, c'est au maître. Il reçoit un cadeau, c'est au maître. La condition ne peut pas modifier ça. Tandis que Chachamim, ils disent, non, il y a des vêtements, ce n'est pas qu'il y a de rabot. Ça veut dire, bien sûr, il y a des maîtres qui a de rabot, s'il ramasse un objet, c'est à qui au maître. Mais si moi je lui donne avec la condition que ça s'arrête à lui et ça ne remonte pas chez le maître, eh bien ça s'arrête à lui, ça ne remonte pas au maître. Il a donc un yad, il a une possibilité d'être connu, l'Eatzmo. Cette machloket, eh bien Rabbi Zera considère que ce serait la même pour Yadisha. Est-ce que Yadisha qui a de Bala ou non? Alors là, il faut minimiser un petit peu le sujet parce que le mari l'a préemption sur l'acquisition de sa femme uniquement à hauteur des Perot. Mais le gouf, le capital, appartient à sa femme, Nirsé Meloug, qu'elle prend possession pendant la période du mariage. Bien sûr, le gouf lui revient à elle. Le mari n'a rien dans le gouf. Mais Perot, il a préemption sur Perot. Donc, qu'est-ce que quand elle les connaît, un cadeau d'argent de son père ou n'importe. S'il n'y a pas eu de condition, c'est sûr que elle acquiert le gouf et le mari Perot. Ça, il n'y a pas de chez là. Mais si on lui donne le cadeau à condition que ça s'arrête à elle et ça ne remonte pas au mari, ce qui pourrait normalement remonter chez le mari, est-ce que je peux intercepter ça et dire stop? C'est à toi que je l'ai dédié, ça s'arrête là, ça ne remonte pas. Fais ce que tu veux de cet argent. Toi, tu claques l'argent si tu veux. Ne réserve pas les Perot au mari. Ou Almenat que ton mari n'ait rien dedans. Je peux? Rachamim, ils diront oui. Rabbi Meir, il dira non. C'est le même débat. Bien qu'ils ne se sont pas prononcés sur ce sujet, Rabbi Zera, il fait un parallèle. Il y a une logique de mettre ça en parallèle. Ça s'entend. Bien que pour la femme, c'est que les nianes à Perot. Ça pourrait se mettre en parallèle, c'est le sentiment de Rabbi Zera. Alors Rabbi Zera nous dit que ce que Rav a dit, cette façon d'insister au nom de notre Mishnah, mais c'est en fait au nom de Rabbi Meir. Ça correspond au Shita de Rabbi Meir, qui lui pense, Yadisha qui yad bala, c'est pourquoi il faut rajouter la condition à ton argent. Tu ne l'acquiers pas tout de suite, comme ça il dit à sa fille. Tu ne l'acquiers, non, tu l'acquiers la nourriture que tu auras achetée. Mais c'est moi qui paye cette nourriture. Ou bien le manteau que tu auras acheté, c'est moi qui le paye, selon l'autre chita. Mais l'argent, il est en dépôt chez toi, il n'est pas à toi. Parce que s'il est à toi, tout de suite, il est préempté. Les ignan à Perot. Ce n'est pas une solution de dire Almenat. Parce qu'il y a des chats qui ont pas là. Une fois de plus, comme pour Eved, on dira, les ignan à Perot, la main de la femme, c'est la prolongation du mari. C'est les ignan qui ignan Perot, ce qu'elle connaît, c'est direct au mari. Ce n'est pas en deux temps. Elle l'acquiert et après elle le restitue et ça remonte au mari. Non, non. Et comme c'est direct, tu ne peux pas intercepter et bloquer ça chez elle. Ça ne peut pas marcher. Ça serait Rabbi Meir, comme dans Eved qui pense là-bas, il y a des Eved qui y a de rabot. Tu ne peux pas acquérir. Je donne l'argent en cadeau à l'évêque à condition que ça ne remonte pas au maître, ça remonte quand même, que je le veuille ou non. Donc, ça c'est notre Mishnah, ça c'est Rav comme Rabbi Meir, et c'est comme ça qu'on est tous d'accord que c'est notre Mishnah, ça il n'y a pas de chéla. La marloquette, c'est qu'est-ce qu'on retient comme dîme, d'accord. Marloquette Rav et Shmuel. Maintenant, la Gemara elle dit, après cette remarque, que voilà, la position de Rav correspond à Rabbi Meir. Et donc, notre Mishnah qui correspond à ça, c'est Rabbi Meir. Et Shmuel, lui, il est d'accord que c'est ça la Mishnah. Et c'est une position qui existe, Rabbi Meir. Mais ce n'est pas sa Shita, lui. Lui, il pense comme Rabbanan. Pour ça, Shmuel, il dit en pratique, qu'est-ce qu'on va retenir? Le père, il dit à sa fille, Almenad, que ton mari, il n'a rien dans cet argent. Je te donne pour toi entièrement. Avec les pérotes, ça s'arrête chez toi. Ça ne remonte pas chez lui. Ou bien fais ce que tu veux de cet argent. Fais-le partir en fumée si tu veux. Liquide-le. Laisse aucun capital. Ne t'astreins pas à investir dans un capital qui réserve au mari des perrottes, un usufruit. Non, fais ce que tu veux avec. Liquide-le. Il peut. Et ça marche. Parce que ce n'est pas Yad Isha qui a de Bala. Ça se fait en deux temps. Et comme ça se fait en deux temps, le noten, il peut dire, ça s'arrête chez toi. Tu prends le gouffre et les perrottes et que ça s'arrête chez toi, ça ne remonte pas au mari. Donc rien remonte au mari. Point. Maintenant, la Gemara demande au Ménor, on a ici une Mishnah qui ne résonne pas tout à fait avec ce qu'on a vu. Qu'est-ce comment on fait le Chitouf à Mavoï? Alors, Chitouf Mavoï, il faut prendre, disons, un kravit avec du vin. On va le déposer dans une cour ou une maison de l'impasse pour associer tous les dayarim de l'impasse dans ce vin, et c'est le symbole qu'on vit tous ici en collectivité, et grâce à ça on va pouvoir porter transporter Shabbat des objets d'une cour à l'autre en passant par le Mavoï, ou même d'une maison à une autre en passant par le Mavoï. Voilà. Comment on fait ça? Est-ce qu'il faut appeler tous les dayarim, que chacun va soulever le chavit pour prendre possession partiellement, on est tous associés dedans? Comment on concrétise? Alors, il y a le principe de Zachin Adam, même Shelo Befanav. J'appelle un ami, je dis voilà, soulève le chavit, tu l'acquiers pour tous les résidents. C'est super, ça marche. Mais maintenant, qui est cette personne qui peut se dévouer pour prendre possession? C'est sûr, ça ne peut pas être moi-même. Si le chavit, il est à moi, c'est moi qui l'ai acheté, c'est mon vin, je dois leur céder à tous les résidents, ben, ou c'est eux qui viennent chacun, ou un représentant, il vient faire l'acquisition pour tout le monde. Mais moi, je ne peux pas, je suis le macné, je ne peux pas jouer le rôle du conné, ça c'est sûr. Maintenant, qui peut être un représentant légal pour faire l'acquisition au profit de tous les résidents? Alors, c'est le sujet ici. On dépose le chavit dans même une cour, l'abdafka, une maison. Il annonce et il déclare, ça c'est dédié à tous les gens, je l'acquiers à tous les gens du Mavoï. Mais ça ne suffit pas de dire comment tu fais des acquisitions magiquement, il n'y a que Ekdesh, Amirato Lagavoa. Mais quand tu fais une donation eh ben, à quelqu'un, il faut qu'il fasse un kinyan, il faut concrétiser. Alors, Abdo. Oui, tu appelles quelqu'un qui vient faire l'azriya, le kinyan en faveur d'eux. C'est ce qu'on appelle zachin adam, shelo befanam. Ce tierce peut être quelqu'un qui n'habite pas dans le mavoï, qui n'a rien à voir avec ce chitouf, qui n'acquiert même pas pour lui-même. Ça se trouve, il acquiert que pour les résidents et pas pour lui-même. Ça marche. Qui est ce quelqu'un? Avdo veshifrato evrim, par exemple. Même ton eved, eved ivri. T'as Shifra, t'as Amaivria. Parce qu'ils ont un yad. S'ils sont connus un objet, ça leur revient. Ça ne remonte pas au maître. Ce n'est pas comme Eved Kenani. Le Eved Ivri, il trouve, il a un compte en banque, il peut avoir ses économies, il n'y a pas de problème. Il trouve une Metsia, c'est à lui. Donc il a son pouvoir d'acquisition, il a son autonomie. Alors automatiquement, ils peuvent faire la Zriya en faveur des résidents. Ton fils qui est majeur ou ta fille qui est majeure, ça marche. Pour voir c'est quoi majeur, oh, c'est un sujet là-bas, faut voir. Mais en tout cas, Ça marche, ça veut dire qu'ils ont leur autonomie, ils ont un kinyan à eux. Ce n'est pas directement à qui opère ce qu'ils vont acquérir, dans la mesure où ils sont gdolim. Mais à l'aider ishto aussi. Tiens, l'aider ishto. Veyamrat kanaya ton bala. Mais si tu dis que le mari va être conné, ce qu'elle, elle est connaît, et on ne peut pas faire autrement, parce qu'on a ici comme une stamishna, qui est Rabbi Meir, que yad isha, que yad bala. Aussitôt à l'acquérir, c'est acquis au mari, on peut pas stopper ça. Et Rouvre l'onafik, mais rechute des balles. Dans ce cas-là, le Rouvre n'a pas été sorti du rechute à balles pour que ce soit une acquisition en faveur des résidents. Là, le délégué qui va faire l'acquisition, il n'est pas bon. Parce que c'est la femme du mari. Et la femme du mari, sa main, c'est comme sa main. Imaginons que le mari lui-même, il prend le chavit de la main gauche, il la passe à la main droite. Il dit voilà, je soulève avec ma main droite le chavit au bénéfice des résidents. Ça reste la même personne, c'est toujours le macné. Eh bien, la main de la femme, ça reste vis-à-vis du mari, la même personne, c'est le même yad. Ce n'est pas deux yads, ce n'est pas deux pouvoirs d'acquisition distincts. Car tout ce qu'elle acquiert, c'est directement acquis au mari. C'est comme si sa main, c'est la prolongation de la main du mari, comme on l'a dit. Bien sûr que par rapport à ce sur quoi le mari est de droit, les perrottes, pas le gouf, mais par rapport à l'acquisition du chavit, c'est problématique. Parce qu'au final, ça ne s'appelle pas que le mari l'a cédé à un tierce en faveur des résidents. Faut un tierce qui est entièrement autonome, indépendant, pour dire que c'est sorti du rechout maknae. Et ainsi, on a été zoché en faveur des résidents. Alors comment avec la femme ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est une stamishna, comme chez nous, une stamishna. Et quel est le fond de la question? Tosfot ici, dans la marge, Dibur amatil vei amrat, yad isha ki yad bala. Tosfot commente. Ela shmamina de Rabbi Meir lo amar ela be'eved, aval lo be'isha ve'kasher le rav. L'objection, c'est qu'on sera forcé d'admettre que même si on connaît un certain Rabbi Meir qui tient que Yad Eved ki Yad Rabo, c'est ça le sujet qu'ils ont discuté Rabbi Meir et Chachamim à l'origine. Eh bien, il n'y a pas lieu d'extrapoler ça à Yad Isha. Dans Eved, on a dit ça. Mais dans Isha, non. Peut-être parce que Isha, c'est que par rapport au Perot que le mari l'a préemption. Mais sur le gouf, c'est pour elle le Kinyan, ça c'est sûr. Alors c'est pourquoi que même les gabés à Perot, on dira que ça se fait en deux temps. Elle connaît le gouf. Et ensuite, elle rétrocession des Perot. Mais. En soi, elle a été connue tout dans un premier temps. Le gouf et les perottes. Du coup, on peut faire un tnaï. Pourquoi on ne pourrait pas faire un tnaï? De dire, Almenat, que le mari n'est rien. Vas-y, dépense-le comme tu veux et que ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas? On veut se revendiquer de Rabbi Meir là-bas dans le sujet de Eved, mais Eved, c'est différent. La preuve, c'est que Eruv, ça marche même avec sa femme. Elle peut prendre possession. On sait que le Yad, elle a un pouvoir d'acquisition en toute autonomie, sans que ce soit systématiquement et directement acquis au mari. Et donc, le parallèle qu'on a voulu faire entre Eved et Isha, ça ne marche pas. Ça, c'est l'objection, telle que Tosfot l'explique. Alors, à ça répond la Gemara, Marava, Falgav, Damar, Rabbi Meir, Yadisha, Kiyad Balin, Modé, Rabbi Meir, les Yan Chitouf. On maintient que ce que Rabbi Meir a pu dire dans Eved, c'est à dire aussi dans Isha. Et malgré tout, les Inyan Shetouf Mavoot, ça marche. Pourquoi? Parce que quand est-ce que Rabbi Meir dit Yad Isha ki Yad Bala? Ça, c'est quand la femme, elle acquiert et le mari, il est hors jeu. Elle acquiert, alors ça retourne direct au mari. Magique, direct. On ne peut pas intercepter et dire non, c'est pour toi, ça s'arrête chez toi. Mais lorsque ça provient du mari, c'est différent. Les nyan chitouf, pour le chitouf, ça va marcher de kivam et l'izkot la acherim. Il s'agit d'être zoché en faveur des résidents. Mais de qui, de la part de qui elle doit faire l'acquisition? Miyad bala, de la main du mari. Ça veut dire qu'il y a une particularité et un avantage, c'est que cette donation lui provient non pas d'un tierce, mais du mari. Au même moment, le mari se met en veilleuse. Il cède tout ce qu'il a dans cet objet. C'était son chavit et il veut céder une part à chaque résident. Elle va faire l'acquisition de lui pour eux. Comme lui, il est en mode retrait, on ne dira pas à Yad Isha Yad Bala, même le Rabbi Meir. C'est pourquoi ça marchera Zachia. Elle est huit zochés, ça marche. C'est l'avantage. Quand c'est un tiers qui donne à la femme et qu'il y a un digne de préemption sur Perot, donc ce capital, il est pour elle, mais Perot, on ne peut pas contourner, c'est à elle. Même pas le Tna et même Almenat, ça ne marchera pas. Ok, ça c'est Rabbi Meir. Il a dit dans, Eved, il le dit dans Isha, on maintient. Et c'est le pshat dans notre Mishnah, et Rav a raison. Pour le pshat de la Mishnah, et ça tient très bien. Sauf que pour le Hérov, si ça marche, c'est mieux parce que, non pas qu'elle a un yad d'emblée. Face au mari, elle a un avantage, puisque c'est lui le makné. Et c'est lui qui est en train de céder, de se mettre en retrait. Alors, ça n'entrave pas son droit, qu'on appelle d'habitude préemption du mari. Ben non, puisqu'il se met en retrait, il cède. Il est en position de makné qu'il est en train de céder. Et il fait Ravina et Ravashi. Ravina, il fait objection à Ravashi avec une référence où on trouve le contraire. Hello, Jezachin. Voici ceux qui peuvent faire Zriya en faveur des Dayarim. C'est toujours le même sujet pour le Shituf Mavoy. Aledebno, Bitoak, Dolim. Veado, Avdol, Shifrato, Ivrim. Ou bien, voilà, comme on l'a vu. Veilu, Shen, Zachilain. Et voici ceux avec qui on ne peut pas faire la Zriya. Aledebno, Bitoak, Tanim. Veado, Shifrato, Kenanim. Son fils ou fille mineure. Parce que eux, ce qu'ils trouvent comme Etia, c'est à qui opère. Donc c'est le même yad, c'est pas un tierce. Ou bien, c'est comme si le père il passe d'une main à l'autre, comme on a dit. La même chose pour Evet Kenani ou Shifra Kenanit. Et Ishto, bizarrement, la femme, elle fait partie de ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas un yad. Pas un yad. Donc c'est pas censé marcher. Tu m'as dit que si. Alors à qui s'adresse la question? Est-ce que c'est une question sur Rav? Pas tellement. Le râle, parce que de toutes les façons, il va falloir répondre à cette contradiction. C'est une contradiction entre deux braïtot. Donc, effectivement, c'est une question en soi que Ravina soulève à Ravashi sans rapport avec Rav plus haut. Simplement, la contradiction en elle-même, il faut la solutionner. Avant, tu avais une explication. Pourquoi oui, la femme? Et là, tu vois que non, la femme, ça ne marche pas. Et donc, ton explication, elle tombe au passage, mais d'un autre côté. Il y a les deux affirmations sont mentionnées et présentes dans des braïtot. Il faut trouver comment concilier et comment aboutir à une conclusion qui ne gêne pas non plus. Voilà où on en est. Alors, c'est la phase finale et la maravashi. Ravashi y répond, Matnitin b'sheyesh la chatzer b'oto mavo yaskina. Notre Mishnah, la Mishnah en haut, avant c'était une Mishnah et ça c'est une braïta. Alors, la Mishnah plus haut à propos de Mavoy qui disait que elle fait la zriya sans problème, ça parle qu'elle possède elle aussi un khatser dans ce mavoy. Elle a un khatser bien à elle. Comment c'est possible? Il y a un khatser qui est que elle et qui n'est pas son mari. Elle a hérité avant le mariage. Et au moment du mariage, le mari lui a signé « j'ai aucune part dedans. Je renonce à mes droits de venir semlou. J'acquiers rien du tout. » Donc ça lui appartient à elle et qu'à elle. Et donc, qui est le Dayar? C'est elle et pas le mari. C'est elle qui possède ce bien. Elle doit avoir une part dans le Shutuf Mavoy. Donc quand le mari, il offre son Chavit Yahin à chacun des résidents, elle aussi, elle doit avoir une part dans ce vin pour être représentée dans le Shutuf Mavoy. Et c'est elle que le mari a choisi pour faire l'acquisition. Non pas seulement que pour elle, mais aussi pour tous les Dayarim. Mais comme elle le fait pour elle, et que pour elle ça marche. Comme elle les aurait pour elle, elle peut les aurait pour les autres. Ça, c'est l'avantage parce qu'elle le fait aussi pour elle. C'est le pshat là-bas dans la Mishnah. Mais dans la Braïta, on parle qu'elle n'a pas de chatzer. Elle les aurait que pour les dayarim sans avoir, elle, d'acquisition dans ce vin. Alors, elle n'est pas aurait pour elle. Elle n'a pas l'avantage du migo qu'elle les aurait. Et donc, ça ne peut pas marcher pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un din que la Gemara Baba Babatra, elle établit qu'un mari donne à sa femme quelque chose, il n'a pas les perrottes, c'est entièrement elle. S'il fait un cadeau, c'est le bien qui appartient à sa femme, gouf et perrottes. Voilà. Sur ça, il n'y a pas... L'idée, c'est parce que le bal est en train de se mettre en retrait, il est en train d'offrir. C'est vrai que quand elle acquiert quelque chose, ça lui revient... Il a une préemption sur Perot, c'est vrai. Mais quand c'est lui qui est en position de offrir à sa femme, alors il peut lui céder la totalité. Donc quand il donne, il a donné, c'est adjugé, c'est pour elle total. Et c'est ce qui fait l'avantage quand elle les aurait pour elle, le vin, pour son chatzer, qui fait partie des chatzerot autour d'un mavoy, eh bien elle les aurait pour elle. Sur ça, il n'y a pas de shéla. Et comme elle les aurait pour elle, ah! Alors, dans la foulée, elle peut aussi être zoré pour les autres. Parce qu'elle a déjà un yad, concrètement. Alors, ça peut marcher aussi pour les autres. Mais dans le cas où elle n'a pas de khatser dans ce mavoï, donc elle est zoré que pour les autres. Mais elle n'a pas de yad indépendant du mari. Parce que si on tient que Rabbi Meir, on maintient. Rabbi Meir, il n'a pas dit que dans Eved, il le tient aussi dans Isha. Il y a des chats qui n'ont pas là. Et donc, ce qu'elle les connaît, direct. Les perrottes, ça va au mari. Alors là, c'est vrai qu'il y a un petit avantage. Comme on a cru que ça suffisait, il s'avère que non. Le petit avantage, c'est que le mari, il est macné. Il est comme en mode retrait. Non, quand même. Elle n'a pas encore suffisamment pour avoir un yad. De quoi être connaît pour les autres. Quand elle a un cratère, elle est connaît pour elle. Sa vie. Le mari se met en retrait en faveur d'elle. Alors, il n'est pas à connaître en retour les perrottes. Elle les connaît totale que pour elle, pas de problème. Et quand elle veut être connaître pour elle et pour d'autres, ça marche pour les autres, par le bénéfice, ça marche pour elle. Comme elle a un yad dans ce mas et kinyan, dans cette tria, vis-à-vis d'elle-même, elle a aussi une force pour les autres. Mais lorsque il n'y a que pour les autres et pas pour elle, même que c'est le mari qui cède ce bien, comme le vin du chitouf, ça ne marchera pas en conclusion. Donc, on a solutionné la contradiction apparente concernant le Shittuf Mavoï. Et du coup, tout est maintenu. Bien sûr, les Rabbi Meir, Yadisha qui a de là, on ne peut pas faire de Tnaï et dire ça s'arrête là et ça ne remonte pas au mari. Et donc, alors voilà, je solutionne le problème du Neder dans la Mishnah facile. Non, c'est plus compliqué que ça. Comme la Mishnah l'a dit, il faudra dire. Et en plus, que je dis, à condition que le mari n'ait rien, que tu ne fais pas ce que tu veux avec. C'est mon argent jusqu'au jour où il faut le dépenser. Et quand on le dépense, ça s'appelle que moi je paye à ta place. Et là, c'est un contournement du Issur Hana'a du Neder, selon Rabbi Meir. Selon Chachamim, c'est plus simple, puisqu'on ne dit pas Yadisha Kadbala, le Tna, il suffit, ou bien de lui dire, faisant ce que tu veux de cet argent, ça revient au même. Et d'après Shmuel, c'est comme ça. Après, il y a Marloquet dans les Rishonim, toute une littérature, comment on en vient au Psak Halakha de ce sujet. Et donc, faut voir, je n'ai pas vu, mais on voit ici dans le Ran toute une Arichot, il parle de ça. Il faut voir les derniers dans le Shulchan Aruch. Mais là, il y a clairement Machloket Rishonim sur la Ra'a à retenir ici entre Rav et Shmuel. Chazak u Baruch, Shavua Tov et Bezrat Hashem.